Chapitre 2. Dans la monotonie du désert, le pistolero avait pratiquement perdu toute notion du temps. Il acheva de la perdre dans l'obscurité, dans le cheminement sous les montagnes. Aucun d'eux n'avait les moyens de définir l'heure, et le concept même d'heure perdit tout sens et toute réalité. Ils allaient en quelque sorte hors du temps. Une journée aurait tout aussi bien pu être une semaine, ou une semaine une journée. Ils cheminaient, dormaient, mangeaient de petits repas qui ne contenaient pas leur estomac. Ils avaient pour seul compagnon le ronflement rugissant de l'eau qui se vrillait un chemin à travers la roche. Ils en suivaient le cours et buvaient dans son onde profonde, plate et gorgée de minéraux, espérant qu'elle ne contenait rien qui pût les rendre malades ou les tuer. Parfois, le pistolero croyait voir des lumières dériver comme des feux fantômes sous la surface. Puis il en concluait qu'il s'agissait de projections de son cerveau, qui n'avait pas oublié la lumière. Pourtant, il mit le garçon en garde et lui interdit de mettre les pieds dans l'eau. Son télémètre interne les avait guidés avec régularité. Le chemin longeant la rivière, car il s'agissait bel et bien d'un chemin, sans chaos, creusant une légère concavité, ne cessait de monter en direction de la source. À intervalles réguliers, il débouchait sur des pylônes de pierre courbés, avec des pitons enchâssés. Peut-être y avait-on autrefois attaché des bœufs ou des chevaux de relais. Sur chaque poteau, une vasque en acier soutenait un flambeau électrique, mais tous avaient perdu vie et lumière. Au cours de la troisième période de repos avant le sommeil, le garçon alla faire un petit tour. Le pistolero entendait les petites conversations des éboulis de cailloux sous les pieds précautionneux de Jake. « Attention !» lui dit-il. « Tu ne vois pas où tu vas. »«
J'avance en rampant. C'est... ça alors ? » !»«
Qu'est-ce qu'il y a ?» Le pistolero s'accroupit et saisit la crosse d'un de ses pistolets. Il eut un temps de silence. Le pistolero écarquilla les yeux en vain.
« On dirait une voie ferrée !» fit le garçon d'une voix dubitative.
Le pistolero se leva et se dirigea d'après la voix de Jake, avançant chaque pied avec précaution pour éviter les embûches.
« Par ici !»
Une main tâtonna dans le noir et toucha le visage du pistolero. Le garçon était très bon dans le noir, meilleur qu'Orland lui-même. Ses yeux semblaient se dilater au point de perdre toute couleur. Le pistolero le constata à la faveur de la faible lumière qu'il avait allumée. Il n'y avait aucun combustible à l'intérieur de cette matrice de pierre, et ce qu'ils y avaient apporté tombait rapidement en cendres. Par moments, la pulsion de faire de la lumière était quasiment incontrôlable. Ils avaient découvert qu'on pouvait avoir aussi faim de lumière que de nourriture. Le garçon se tenait à côté d'une paroi rocheuse incurvée, que longeaient des portées métalliques parallèles qui fuyaient dans l'obscurité. Chacune était jalonnée de nœuds noirs, sans doute d'anciens conducteurs d'électricité. À côté et en dessous, à quelques centimètres à peine du sol rocailleux, des rails de métal brillants. Quel genre d'engin avait pu rouler là à une époque ? Le pistolero ne pouvait imaginer que des bolides électriques aux lignes pures, filant leur chemin à travers cette nuit éternelle, précédés par leurs phares, les yeux épouvantés. Ils n'avaient jamais entendu parler de choses pareilles, mais il restait de nombreux vestiges de ce monde passé, aussi sûr qu'il y avait des démons. Une fois, le pistolero avait croisé un ermite qui avait gagné un pouvoir quasi religieux sur une malheureuse troupe de pauvres bougres par la simple possession d'une ancienne pompe à essence. L'ermite se tenait accroupi à côté de la pompe, l'entourant d'un bras possessif, et il prêchait, prononçant des sermons furieux et pitoyables. Parfois, il plaçait l'embout en acier toujours brillant et rattaché au tuyau de caoutchouc pourri entre ses jambes. Sur la pompe, en lettres parfaitement lisibles, bien que constellées de rouille, s'étalait une légende au sens inconnu. Amoko. Sans plomb. Amoko était devenu le totem d'un dieu du tonnerre, un dieu qu'ils avaient vénéré dans le sacrifice des moutons et le vacarme des moteurs.
Vroom, 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 vroom.
Des primates, s'était dit le pistolero. Rien que des primates sans importance, creusant le sable, là où autrefois s'attendait la mer. Et maintenant une voie ferrée. On va la suivre, dit-il. Le garçon ne répondit rien. Le pistolero éteignit la torche et ils dormirent. Lorsque Roland s'éveilla, le garçon s'était déjà levé. Il était assis sur l'un des rails et il regardait le pistolero sans le voir, dans le noir. Ils suivirent les rails comme des aveugles, Roland en tête, Jake derrière. Ils glissaient les pieds le long de l'un des montants, toujours comme des aveugles. Plus loin, à droite, le roulement régulier de la rivière leur tenait compagnie. Ils ne parlaient pas, et cela dura pendant trois périodes de veille. Le pistolero ne ressentait pas le besoin urgent de réfléchir avec cohérence ou de prévoir la suite. Il dormait d'un sommeil sans rêve. Pendant la quatrième période de veille et de marche, ils tombèrent littéralement sur une drésine. Le pistolero s'y cogna à hauteur de la poitrine, et le garçon qui marchait de l'autre côté le percuta du front et tomba en poussant un cri. Le pistolero alluma immédiatement la torche. « Ça va ?» Dans ses paroles perçaient dureté et colère, et il tressaillit en s'entendant. « Oui ?» Le garçon se tenait le front avec précaution. Il secoua la tête pour vérifier qu'il n'avait pas menti. Ils se retournèrent pour regarder ce qu'ils avaient percuté. Il s'agissait d'une plaque de métal carré, tranquillement immobilisée au beau milieu des rails. Au centre, une poignée à bascule. Elle s'enfonçait dans un entrelacs de rouages. Le pistolero ne comprit pas immédiatement le fonctionnement de la chose, mais le garçon si. « C'est une drésine. »« Une quoi ?»« Une drésine !» répéta le garçon avec impatience. « Comme dans les vieux dessins animés. Regardez !» Il se hissa sur la pointe des pieds et actionna la poignée. Il réussit à la baisser, mais il dut y aller de tout son poids pour faire tourner l'engrenage. La drésine glissa d'une trentaine de centimètres sur les rails, en silence, hors du temps. « Bien !» fit une voix mécanique étouffée, qui les fit tous deux sursauter. « Bien, poussez encore une !» La voix mécanique se tut. « Elle est un peu rouillée !» s'excusa le garçon. Le pistolero grimpa à côté de Jake et abaissa la poignée. La drésine avança sagement, puis s'immobilisa. « Bien, poussez encore une fois !» l'encouragea la voix mécanique. Le pistolero sentit un arbre de transmission tourner sur ses pieds. La sensation lui plut, ainsi que la voix mécanique, bien qu'il n'eût aucune envie de l'entendre plus que nécessaire. Mais à part la pompe au relais, c'était la première machine qu'il voyait depuis des années qui fonctionnait toujours correctement. Pourtant, l'engin suscitait chez lui un malaise. Certes, cette drésine les mènerait plus vite à l'homme en noir. Il ne doutait pas que ce dernier s'était une fois encore arrangé pour qu'il la trouve. « Super, hein ?» fit le garçon d'une voix pleine de dégoût. Le silence était pesant. Le pistolero entendait le bruit de ses propres organes à l'œuvre à l'intérieur de son corps, ainsi que l'eau qui gouttait, et rien d'autre. « Vous vous mettez d'un côté ?» « Et moi de l'autre, » recommanda Jake. « Il va falloir que vous poussiez tout seul jusqu'à ce que ça roule bien. Alors je pourrai vous aider. Vous poussez, ensuite c'est moi qui pousse, et ainsi de suite. Vous pigez ?»« Je pige, » dit le pistolero, les poings serrés de désespoir. « Mais il faudra que vous poussiez tout seul jusqu'à ce que ça roule bien, » répéta le garçon en le regardant. Le pistolero eut soudain dans la tête l'image très vivace du grand rôle, environ un an après le bal de la nuit des semailles. Il n'y avait plus alors pour tout décor que des éclats de verre épars, sillage de la révolte, des émeutes civiles et de l'invasion. À cette image succéda celle du visage d'Ali, la femme à la cicatrice de Toll, secouée d'avant en arrière par les balles, tuée sans raison aucune. À moins que le réflexe ne fût une raison. Puis, par le visage de Cuthbert Allgood, riant en descendant la colline vers sa mort, toujours en train de souffler dans ce foutu corps. Puis, il vit Suzanne, ses traits tordus, enlaidis par les larmes. « Tous mes vieux amis, » pensa le pistolero, et il eut un sourire hideux. « Je vais pousser, » fit-il. Et il se mit à pousser, et quand la voix résonna de nouveau, « Bien, poussez encore, bien, poussez encore !» Il chercha à tâtons autour du pied de la poignée. Il finit par trouver ce qu'il cherchait, un bouton, sur lequel il appuya. « Au revoir, l'ami !» lança la voix mécanique avec entrain, puis elle leur accorda quelques heures d'un silence béni.